Bonsoir. Pour notre émission de ce jour, nous vous proposons, dans le cadre de notre série d'émissions autour du thème des appelés dans la guerre d'Algérie, d'écouter la rediffusion d'une émission réalisée en direct dans ses studios le 18 mars 2002, une date déjà choisie à dessein, avec Ugo Iannucci. Le thème de cette émission était Ugo Iannucci, appelé du contingent en Algérie et militant des droits de l'homme. Une parole autour de son témoignage livresque, soldat dans les gorges de Palestro. Bonne écoute.
Dans les djebels de mes 20 ans, on n'était pas vraiment sauvage. Quand on faisait griller des gens, c'était pour prendre l'avantage, on les bouffait pas pour autant. Hormis le viol et le pillage, par respect pour nos adjudants, on restait toujours plutôt sage, on n'était pas vraiment sauvage dans les djebels de mes 20 ans. Avec la victoire en chantant, qui jouait les gardes-barrières, j'ai des copains dans la carrière qui sont entrés les pieds devant. Dans ces montagnes de malheur, qu'étions-nous foutre venus faire? On y défendait les valeurs humaines et pétrolifères, on prospectait le champ d'honneur. Pacification n'est pas guerre, en ce temps-là le déserteur n'avait pas cours dans les chaumières. Qu'étions-nous foutre venus faire dans ces montagnes de malheur? Avec la victoire en renfort, dans les transistors des familles, leur répétant, point de la quille, que nous étions bien les plus forts. Depuis je suis rentré chez moi, à quoi bon remuer les cendres? Pourtant il me semble parfois que j'ai des comptes à me rendre, je ne sais pas très bien pourquoi. J'ai des amis, ma femme est tendre, et j'ai retrouvé bien des joies. Y a-t-il quelque chose à comprendre? À quoi bon remuer les cendres? Depuis je suis rentré chez moi, et la victoire au fond de mon sac, et mon sac rendu aux gendarmes. J'étais content, adieu aux armes, et j'ai des souvenirs en vrac.
Ugo Iannucci, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous connaissons comme avocat, nous vous connaissons comme ancien bâtonnier lyonnais de l'Ordre des avocats, comme inlassable défenseur des droits de l'homme, mais plus particulièrement récemment comme avocat des parties civiles au procès Barbie. Mais nous ne vous connaissions pas comme militaire du contingent en Algérie, et voilà que presque 40 ans après, les souvenirs de cette expérience se réveillent davantage en vous et que vous avez décidé de nous en faire part en publiant votre journal de cette époque, un livre qui s'appelle « Soldats dans les gorges de Palestro », comme un témoignage de plus, un élément de plus apporté au débat de ce qui fut pour une génération cette expérience de vie et de politique française en Algérie. Nous allons donc avec vous parler de tout ça et du regard que vous portez aujourd'hui, 40 ans après, sur cet épisode de votre jeunesse.
Oui, j'ai décidé de publier ce témoignage à la suite de l'appel lancé il y a 15 mois environ par 12 personnalités, dont Gisèle Halimi, la générale de Bollardière, Germaine Tillon, Alban Liechti et d'autres, qui demandaient aux plus hautes autorités de notre pays, le président de la République et le Premier ministre, de reconnaître officiellement que la France avait installé en Algérie pendant la guerre un système d'État, un système de torture. Alors, on ne peut pas résumer, bien sûr, la guerre d'Algérie à ce système-là, mais si l'on veut aboutir un jour à une réconciliation, je crois que, comme il est dit dans la chanson que l'on vient d'entendre, il faut quand même remuer les cendres. Il ne faut pas tourner la page. Il ne faut pas dire que ceci doit plus être évoqué. Il faut faire un travail de vérité. Et lorsque la vérité apparaîtra, mais des deux côtés, hein, lorsque, eh bien, à ce moment-là, on pourra vraiment se considérer comme réconcilié. Alors je précise tout de suite que, contrairement au procès qui nous est fait par certains, qui nous reprochent de salir, paraît-il, l'armée française, moi je dis que ceux qui ont sali l'armée française, ce sont ceux qui ont torturé et qui aujourd'hui veulent nier cette réalité. Mais en même temps, ce travail de vérité doit être fait par tous, y compris du côté algérien. Mais en ce qui me concerne, j'ai à parler de ce qui a été fait au nom de la France, sous le drapeau de la France. Et c'est douloureux, effectivement, à évoquer pour un pays qui se proclame à juste titre comme celui qui a été l'un des initiateurs de la théorie des droits de l'homme.
Voilà, une entrée en matière. Si on revient un peu davantage à votre livre, la première impression que j'ai eue en le lisant, comme ça, c'est des événements qui ont l'air pas anodins, mais c'est un journal un peu banal d'événements. Et puis finalement, à le lire jusqu'au bout et à le relire, on s'aperçoit que, à travers ces 90 pages, beaucoup, énormément de choses sont dites et qu'un climat s'en dégage, qu'on ressent assez, on a l'impression de ressentir très bien ce que vous ressentiez, ce que vous voulez évoquer. C'est d'autant plus étonnant que, j'ai envie de dire, ça pourrait être un livre écrit, quoi, écrit. Et en fait, non, vous, jeune étudiant, donc 25 ans à l'époque, vous avez écrit ça comme un journal sans idée préconçue, je suppose, juste pour garder une mémoire de ce qui se passait pour vous. Et c'est à la fois, oui, très bien écrit. C'est presque étonnant, quoi, qu'un simple journal comme ça, quotidien de Bidas, vous n'étiez pas un Bidas ordinaire, certes, mais une telle dimension humaine et d'écriture. Vous l'avez, en le retrouvant 40 ans après, vous avez eu aussi cette impression.
Pendant 40 ans, je n'ai pas osé le relire parce que je ne voulais pas réveiller en moi certains souvenirs tout à fait douloureux. Je précise que je ne l'avais pas écrit à ce moment-là dans le but de publier. C'était simplement pour moi-même, pour me souvenir, si vous voulez, parce que je voulais, au fur et à mesure, consigner mes réactions face à cette guerre qui, alors, était sans nom. Je rappelle que j'étais responsable des étudiants communistes avant mon incorporation, que j'étais fiché par les renseignements généraux. C'est la raison pour laquelle je suis resté deuxième classe pendant
tout. Oui, puis vous y aviez mis une volonté acharnée à rester deuxième classe.
Oui, aussi, je ne tenais pas non plus à avoir un grade. Mais j'ai beaucoup hésité avant d'accepter de porter l'uniforme. J'avais à l'esprit l'attitude de certains de mes camarades qui avaient choisi d'être insoumis, mais je m'étais rendu compte que leur sacrifice n'avait aucun impact dans l'opinion. Et je me suis dit que je devais partager les épreuves de ma génération. Alors ma génération, avec cette précision que vous avez rappelée, c'est que du fait de mon sursis, de mes études, j'avais 25 ans. Et c'est peut-être, outre mon engagement politique, c'est ma maturité d'un homme de 25 ans qui m'a permis de résister à certaines épreuves, qui m'a permis d'éviter le basculement de ce que j'appelle de l'homme ordinaire au tortionnaire. Et ça, c'est quand même important. C'est la raison pour laquelle, maintenant, je publie ce témoignage. Je participe à des débats, notamment dans les lycées, parce que je voudrais mettre en garde la jeunesse. Des situations de ce genre peuvent se reproduire. Et il faut une culture du refus pour résister dans certaines circonstances. Voilà le message que je voudrais faire passer avant de disparaître.
Oui, vous êtes encore loin de disparaître.
Enfin, disons que c'est l'objectif.
Mais vous étiez effectivement, quand vous êtes parti, vous pensiez que vous alliez pouvoir échapper au laminoir, au rouleau compresseur psychologique qu'est l'armée. On sait les méthodes qui étaient utilisées vis-à-vis des PIDAS. Vous les avez subies un peu?
Ben, je les ai subies comme tous les soldats du contingent. D'autant plus que j'étais affecté dans les unités stationnées dans les gorges de Palestro. Ces gorges de Palestro étaient connues à l'époque de la France entière parce que, en mai 1956, toute une section de jeunes rappelés français avait été décimée par les combattants algériens. Bon, ça, c'est la guerre. Mais on avait retrouvé les cadavres mutilés. Et ça, c'est la barbarie. Et vous imaginez bien que les services d'action psychologique de l'armée vous montraient les photos de ces jeunes soldats français mutilés et vous disaient, vous voyez ce que fait l'adversaire, donc vous-même, soyez sans pitié. Donc ça servait, si vous voulez, des photos de ce genre à conditionner en quelque sorte le soldat. Et puis, il est vrai que ce n'est pas facile de dire non. Parce que vous avez non seulement le poids de la hiérarchie militaire, la discipline de l'armée, mais vous avez aussi vos camarades. Et si vous vous distinguez, vous dites « moi je refuse de faire ceci ou de faire cela », vos camarades qui eux ont accepté ou qui n'ont pas pu refuser, vous le reprocheront. Donc entre le poids de la hiérarchie et cette pression de vos camarades, effectivement vous êtes dans une situation qui est très difficile.
Oui, puis il y a une question, une solidarité de fait qui est mise en place une fois qu'on est là-bas. Enfin, on sait très bien que quand on est un groupe de jeunes et qu'il y en a un qui se trouve tué dans un accrochage, ça stimule le désir, oui, de vengeance de tous les autres, quoi.
Alors ça, effectivement, vous trouvez ça dans tous les conflits. Ça peut à la rigueur non pas s'excuser, mais se comprendre. Mais nous verrons tout à l'heure ce que je ne pardonne pas non seulement aux généraux de l'époque, mais aux chefs, aux responsables politiques de l'époque, que ce soit avec un gouvernement de gauche de M. Guy Mollet, qui a voté les pouvoirs spéciaux, et j'en reparlerai, ou que ce soit après la venue au pouvoir du général de Gaulle, puisque le système est protégé. Ce que je ne pardonne pas, c'est qu'on a mis en place un système de torture. On a institutionnalisé la torture en Algérie, dans pratiquement tous les secteurs, avec ce qu'on appelait des DOP, détachements opérationnels de protection, qui relevaient d'un CCI, centre de coordination interarmée, lui-même relevant du pouvoir politique. Et donc il y avait tout un système camouflé qui était destiné à obtenir, paraît-il, le renseignement. Alors, la torture était utilisée non seulement pour faire parler quelques-uns, dans le but, disait-on, d'éviter certains attentats. Or, on sait que, de ce point de vue-là, les résultats ont été tout à fait médiocres. Et le général Massu lui-même, dans une interview au Monde, a reconnu que on aurait pu éviter de mettre en place ce système. Et lui-même a parlé de torture institutionnalisée. C'est le général Massu. Bien. Mais la torture a pour but non seulement de faire parler quelques-uns, mais surtout de faire taire le plus grand nombre. Et lorsque vous raflez des milliers de suspects, que vous les soumettez à la question ou que vous les faites disparaître, comme le général Ossarès l'a reconnu, eh bien, c'est fait pour terroriser la population, l'empêcher de basculer et de rejoindre le camp adverse. Donc, faire parler quelques-uns, mais surtout faire taire le plus grand nombre.
Est-ce que c'était vraiment efficace pour faire taire les gens? Parce qu'on a l'impression que les gens qui étaient torturés étaient souvent raflés au hasard, ou presque.
Voilà, et c'était donc pas forcément là, on l'a vu d'ailleurs même en France pendant l'occupation. Lorsque vous torturez, ça suscite un sentiment de révolte dans les familles, parmi les proches. Et je crois que le plus bel agent de recrutement du FLN, à partir d'un certain moment, ça a été le général Massu. Parce que justement, cette indignation, cette révolte, fait que le FLN n'a pas eu de mal à recruter. Donc, non seulement c'est inefficace au niveau du renseignement, mais en plus, alimente le camp adverse.
Cette torture, vous l'évoquez dans votre livre. Alors, bien sûr, le général Schmitt dirait que c'est un livre qui a été écrit sur mesure pour servir certaines idées. Mais, en fait, dès que vous arrivez là-bas, très vite... Et on sait que vous n'avez pas écrit ce livre à dessein. Très vite, vous êtes confronté à ça. Enfin, comme ça, dans votre livre apparaît au fil des pages tout ce qu'on sait, plus ou moins, qui s'est passé, toutes les exactions, toutes les mauvaises pratiques au fil de vos déplacements dans diverses unités aussi. Et c'est pas forcé, c'est pas écrit sur mesure, mais de fait, il suffisait de vivre, d'être confronté à la vie quotidienne du soldat là-bas pour découvrir au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, et très vite, tous les aspects des actions de l'armée, certains étant enfin, positifs, je sais pas s'il faut dire ça, mais étant des actes de familiarisation avec la population, de bons
oui,
rapports,
justement,
dans qui se
but,
mélangeaient avec des exactions.
Si vous voulez, vous aviez les deux aspects, notamment à partir de 59. Il y a eu le général Schall qui était à la tête de l'armée, qui a lancé certaines opérations comme les opérations jumelles, qui consistaient à détruire les combattants FLN. Bien. Mais en même temps, on lançait une œuvre de pacification avec tout un système social, si vous voulez. Et moi, j'ai participé à ce système-là, puisque après avoir refusé de servir dans un centre de torture, je suis revenu dans mon unité d'origine, mais comme instituteur. Et donc, j'ai fait la classe des Kabyles pendant 18 mois. Mais ça participait de cette autre partie. D'un côté, vous aviez la mitraillette, mais de l'autre côté, vous aviez, pour symboliser, l'olivier, quoi. Donc, le médecin, l'instituteur, participait, effectivement.
Et tout ça coexistait, finalement.
Tout ça coexistait.
Ça paraît un peu bizarre, vu d'ici, avec le recul, mais pour vous qui y étiez...
Non, c'était pas bizarre, dans la mesure où il ne faut jamais oublier, lorsque vous parlez de la guerre d'Algérie, il ne faut jamais oublier de penser à la guerre d'Indochine. Pourquoi ? La guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954. La guerre d'Indochine s'était terminée en juillet 1954, trois mois auparavant. Or, les officiers français qui avaient servi en Indochine sont revenus humiliés. Ils ont eu l'impression que leur défaite était due, d'une part, à la théorie révolutionnaire communiste. Ils ont découvert ce qu'était effectivement une guerre subversive, ce qu'ils appelaient comme une guerre subversive. Et puis, ils étaient persuadés aussi qu'ils n'ont été battus que par le pouvoir politique français qui ne les a pas suffisamment soutenus. Alors, vous avez ce double mouvement à partir de ce moment-là. D'une part, des tentatives, des velléités putschistes à l'intérieur de l'armée. C'est la faute aux politiques, donc. Et puis, ces tentatives vont se manifester en janvier 60 par ce qu'on appelait les journées des barricades. Et puis, surtout, un événement que j'ai vécu en avril 61 par le putsch des généraux. Mais, de l'autre côté, ils ont mal assimilé ce qu'ils ont vécu en Indochine sur la guerre révolutionnaire. Et ils voyaient, dans le FLN d'abord, un élément du communisme international, ce qui était complètement faux. Et par ailleurs, il disait que ce qu'il fallait, c'était éviter que le FLN ne soit dans la population comme le Viet Minh, c'est-à-dire comme un poisson dans l'eau. Et donc, d'où la tentative d'impressionner, terroriser la population, ou alors de la séduire par l'aspect que j'évoquais tout à l'heure. Mais tout ça était très mal, était grossier au niveau de la pensée, et en fait, c'est à mon avis la raison de l'échec.
Oui, avec une population qui était écartelée, on va dire, c'est même pas coincé, c'était écartelé entre une armée française qui affirmait sa présence et dès qu'elle avait tourné le dos, des militants autonomistes arabes qui exigeaient son dû ou qui les terrorisaient aussi.
Alors, c'était là, impossible. Il ne faut pas oublier, j'ai parlé tout à l'heure de cette section de soldats français mutilés. Mais on pourrait parler effectivement d'autres crimes du FLN, notamment le massacre de Medouza, où tout un village a été... tous les habitants du village ont été abattus parce qu'ils étaient suspectés d'être sous l'influence d'un mouvement adverse, le MNA, mouvement nationaliste algérien. Mais on pourrait aussi parler de la cruauté des Fellaga, comme on les appelait, des Fell, dans la vie quotidienne. Et moi, j'étais choqué, si vous voulez, tout en étant partisan de l'indépendance, j'étais choqué par le fait de voir, par exemple, des Kabyles évoluer dans les rues d'un village avec le nez coupé. Et le FLN leur avait coupé le nez uniquement parce qu'ils n'avaient pas respecté une consigne de boycott du FLN qui consistait à demander aux Algériens de ne plus fumer du tabac français. Donc ça me choquait profondément. Mais ça n'enlève rien au fait que le combat qui était mené par ces hommes-là était juste parce que il faudrait revenir à toute l'histoire coloniale, à la conquête qui a été faite de violences extraordinaires. On ne le sait pas, mais même sous Louis-Philippe, la conquête, la chute d'Alger du 5 juillet 1830, ça coïncide à peu près avec la prise du pouvoir, j'allais dire, par Louis-Philippe. Dès 1833, Louis-Philippe nomme une commission d'enquête. Il y aura une deuxième commission d'enquête en 1847 qui est dirigée par un historien célèbre qui s'appelle Alexis de Tocqueville. Eh bien, toutes les deux se terminent par cette conclusion. Nous avons apporté la barbarie dans un pays que nous pensions civilisé. Et donc, les exactions ont été extraordinaires à cette époque-là. Et le maréchal Bugeaud donnait des consignes d'une vraiment effrayante. Il fallait tous les exterminer, il fallait tous les enfumer dans des grottes, etc. Vous voyez, il y avait vraiment des consignes qui... Et tout ça a marqué, je crois, le peuple algérien. Ensuite, il y a eu des révoltes qui sont prolongées jusqu'en 1870. Et il y a eu la contribution des Algériens aux deux guerres mondiales, 1914-1939-45. Eh bien, là aussi, certains historiens disent que la guerre de l'Algérie, en réalité, a commencé non pas le 1er novembre 1954, mais le 8 mai 1945, car ce jour-là, où on célébrait l'armistice, la fin de la guerre à l'échelle mondiale, eh bien, des Algériens manifestaient dans le Constantinois, notamment à Sétif, pour réclamer certains droits. Et il y a eu, certes, une centaine d'Européens qui ont été tués par des Algériens, mais la répression a été terrible. De l'ordre, les chiffres varient toujours, hein, selon les historiens.
Autour de 10 000, non?
Enfin, au minimum, strict minimum de 10 000 personnes. Et donc, cela, ça a marqué les Algériens et ça les a fait basculer. En plus, il faut savoir que, il faut quand même avoir à l'esprit que un Algérien n'avait pas les mêmes droits qu'un Français, notamment au niveau politique, puisque il y avait une assemblée algérienne. La population algérienne était composée de 9 millions, disons, j'allais dire, d'Arabes ou de Kabyles, et puis d'un million de Français ou d'Européens. Eh bien, les 9 millions d'un côté et le million de l'autre avaient le même nombre de députés. Donc, vous voyez, la représentation n'était pas du tout équitable, sans parler des élections qui étaient très souvent truquées, comme ça a été reconnu par le gouverneur Nejlen en 1948.
Je vous propose de faire une pause musicale avant de poursuivre notre entretien. Nous avons entendu en ce début d'émission une rareté qui s'intitule « La chanson de Max ». Elle était interprétée par Vania Adrien-Sens, son auteur-compositeur et Jean-Claude Domax. Là, je vous propose d'entendre de Claude Vinci, celle que je n'aurais pas voulu faire. Jean-Claude Petit pour la musique, Claude Vinci pour les paroles et l'interprétation.
Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été, dans un pays de soleil outre-mer que certains désiraient conserver. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle à laquelle on m'a emmené pour m'obliger à taper sur des frères qu'au contraire j'aurais préféré aider. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle pour laquelle on m'a forcé à incendier un douar, porte de fer, à tuer femmes et gosses apeurés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où l'on voulait me fusiller, car je refusais d'être tortionnaire au nom du pays de la liberté. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où j'étais du mauvais côté, du côté des gros marchands de misère, pas du bon côté des opprimés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, vous comprendrez pourquoi j'ai déserté.
Claude Vinci, celle que je n'aurais pas voulu faire. Eh bien, l'histoire que nous raconte Claude Vinci n'est pas exactement la vôtre, puisque il parle d'avoir déserté. Et vous, tout au contraire, c'est un des aspects aussi spécifiques et intéressants qu'on découvre dans votre livre. Vous êtes tout à fait emblématique d'une partie de cette jeunesse française qui était engagée contre la guerre, engagée au Parti communiste. Et on sait qu'il y avait ce dilemme, participer ou pas, et que bon nombre de jeunes communistes ont voulu ou accepté d'aller participer à cette guerre française là-bas. Je dis pas pour empêcher la sauvagerie de l'armée éventuelle, mais pour essayer de la limiter et pour porter un témoignage, quoi. Je crois que vous êtes très vite trouvé dans cet esprit-là, et puis on peut dire que vous l'avez payé cher et que vous avez peut-être eu de la chance.
Mais je m'expliquerai quand même sur la chance, parce que je crois avoir été sauvé par des intellectuels lyonnais. Mais ça, si vous voulez, nous en parlerons ensuite. Ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que j'ai longtemps hésité, mais déserter ne correspondait pas à mon tempérament. Moi, j'aime bien affronter les choses directement. Je me suis toujours placé sur le plan de la dignité, de l'éthique, mais il me semblait donc qu'il fallait que je sois là. Bon, je ne me fais pas trop d'illusions sur ce que j'ai pu faire, mais j'ai évité quand même certaines dérives. Je l'explique, oui, notamment au niveau de l'implantation d'un bordel. J'ai su convaincre mes jeunes camarades qui se félicitaient de l'initiative d'un gradé. Lorsque j'ai posé à ce gradé la question suivante, d'où viendraient les prostituées? Serait-ce des prostituées professionnelles? Il m'a dit, mais pas du tout. Ce sont les femmes des fêles, les femmes des suspects. À ce moment-là, je me suis tourné vers les jeunes du contingent. Et je leur ai dit, mais moi, j'ai une sœur qui a perdu son mari dans le Vercors, fusillée par les Allemands. Elle avait 20 ans. Donc, si on suivait le principe de l'adjudant X, eh bien, ma sœur aurait pu se retrouver dans un bordel de la Wehrmacht uniquement parce qu'elle était la femme de maquisard, et cet argument a porté. Donc vous voyez, des petites choses de ce genre, eh bien, avec aussi...
À d'autres moments, vous avez obtenu des punitions pour des exactions.
Voilà. Bon, des petites choses comme cela, mais le seul fait aussi d'être là, comme témoin, à mon avis, je suis sûr, a dissuadé les officiers de faire certaines choses. Car je le relate, on me répétait après ce que disait par exemple le capitaine qui commandait le poste. Il disait, attention, faites en sorte que Yanuxi n'en sache rien. Donc, on se dissimulait. Déjà, ils étaient sur une attitude un peu plus défensive. Et puis, un officier aussi, sachant que j'avais à mon incorporation écrit dans un journal, me disait, bon, ben, quand vous rentrerez, ne soyez pas trop dur pour nous. Vous voyez, il y avait quand même... bon.
Oui, et puis, il y avait aussi ces moments où... oui, ces moments un peu particuliers de janvier 60, où on a dit que le fait qu'il y a beaucoup d'appelés du contingent, et sûrement des appelés engagés dans un certain sens, plus à gauche que du côté des barricadiers d'Alger, ont contribué à empêcher que l'armée bascule du côté des factieux.
Ben, c'est surtout pour le putsch d'avril 61.
D'avril 61.
Janvier 60, c'est une péripétie qui était limitée à Alger. Mais avec le putsch des généraux, notamment Challes et Salan, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que grâce au transistor, le transistor était quand même notre moyen essentiel d'être relié à la métropole, nous avons su rapidement que le général de Gaulle, président de la République, nous demandait de ne pas obéir à ces officiers factieux. Et c'est ce que nous avons fait. Et moi, je me suis trouvé dans une situation un peu cocasse d'aller sur dans les gorges de Palestro, sur des roches, écrire « Vive de Gaulle ». Alors que 18 mois avant, à Lyon, je mettais le contraire, quoi, sur les murs de Lyon. Mais enfin, effectivement, le contingent a eu un très grand rôle. Et moi, j'ai fini mon service militaire en Algérie sur cette victoire, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas regretté d'être parti.
Cette partie à quelle
j'ai
date?
J'ai contribué modestement, si vous voulez, à l'échec du putsch sur place.
Vous êtes parti à quelle date?
Je suis parti en janvier 59 et je suis rentré juste après le putsch, en avril 1961, à la fin avril.
Votre journal, lui, s'arrête au...
Mais il s'arrête avant parce que, à partir du moment où j'étais...
Février 60, quoi.
Voilà, février 60, après j'ai été pris par mon travail d'instituteur, je faisais la classe même le dimanche. Il y avait un tel échange entre ces jeunes cabines.
T'es loin des 35 heures.
Voilà, loin des 35 heures, que bon, et c'est vrai que c'était plus la même réalité, quoi. Donc, mais je regrette, j'aurais dû noter aussi mes impressions d'instituteur. Alors, je vous précise, puisqu'on évoque ce problème, que j'ai conservé des contacts avec mes anciens élèves jusqu'en 1997-1998, un échange de correspondance. Or, soudainement, ça a cessé. Alors, est-ce qu'ils en ont eu assez d'écrire à leur ancien instit, ou est-ce que, comme je le pense, dans cette région montagneuse propice à la guérilla, est-ce que l'activité des groupes intégristes fait en sorte que ces élèves ne veulent pas qu'on sache qu'ils correspondent toujours avec un Français? C'est les questions que je me pose. Mais ce qui est certain, c'est que je suis vraiment navré de ce qui arrive à ce peuple algérien qui n'en finit plus avec la violence, qui n'en finit plus avec la guerre, qui n'en finit plus avec les exactions. Que ce soit celle des intégristes, mais aussi celle, je le sais, des services de sécurité algériens.
On a eu l'impression qu'il y avait eu un répit après la guerre, que la coupe était tellement pleine que pendant une demi-douzaine d'années, l'Algérie a été plus calme entre 62 et 70.
Elle l'a été, mais il faut avoir à l'esprit que dès la signature des accords d'Évian, il y a eu des rivalités très fortes entre factions algériennes. Et que Ben Bella n'a pris le pouvoir qu'après des luttes armées à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui explique en partie le fait qu'il n'y ait pas eu un pouvoir algérien fort d'emblée. C'est ce qui explique, à mon avis, en partie qu'il y a eu autant d'exécutions sommaires, notamment du côté des harkis. Parce qu'il n'y avait pas un pouvoir central fort. Moi, je pense que, vous voyez, à Lyon, à la Libération, il y avait un commissaire de la République extraordinaire qui s'appelait Farge, et qui d'emblée, lui, après la direction des opérations, a fait publier, placarder des affiches pour empêcher les exécutions sommaires, qui n'hésitait pas à aller à la maison d'arrêt Saint-Paul pour protéger les chefs miliciens lorsqu'il y avait des manifestations de résistants demandant que l'exécution rapide de ces gens-là. Donc il y avait une volonté politique. Cette volonté politique, on l'a pas trouvée en Algérie. Alors, d'une part parce qu'il y avait ces divisions internes, et puis d'autre part peut-être parce qu'il y avait un désir de vengeance regrettable que Mandela, lui, en Afrique du Sud, a su éviter, avec notamment sa commission Vérité et Réconciliation. Mais il y a eu un engrenage de la violence qui s'est manifesté notamment par les activités de l'OAS. Et les activités de l'OAS, avec sa tactique de la terre brûlée, eh bien, a abouti à des représailles de la part des Algériens. Et la situation a été telle que, bon, un million de pieds noirs, comme on dit, ont quitté l'Algérie, ont été arrachés au pays qui les aimait. Pour le plus grand tort de l'Algérie, ça, je crois que la cohabitation des deux populations aurait été bénéfique, effectivement, pour l'ensemble.
Oui, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe depuis cette période-là et même avant, on a l'impression qu'il y a une formidable histoire d'amour entre la France et l'Algérie.
Oui, et d'ailleurs, tous ceux qui ont vécu là-bas, que ce soit pour y avoir résidé pendant des dizaines d'années, ou même comme nous, pendant 2 ans, ont conservé effectivement un amour de ce pays.
C'est réciproque.
Et puis une impression de gâchis invraisemblable. Ce pays a des richesses non seulement touristiques, pétrolières, etc. Et puis vous voyez dans quelle situation il se trouve. Alors là, il y aurait autre chose à dire, notamment sur le phénomène de parti unique après l'indépendance, la corruption. Mais ça relève au premier chef de l'appréciation des Algériens qui se battent, notamment en Kabylie, pour quand même que les choses changent.
Ouais, on revient un petit peu à la chanson. Vous citez dans votre livre que vous êtes surpris une fois à chantonner le soldat mécontent. C'était oui. Dans quelles circonstances?
Je me souviens plus tellement bien, mais ça, ça ne veut rien dire. Vous savez, j'ai eu la surprise en lisant le livre du général Ossarès de l'entendre relater que lui, il lui arrivait dans des réunions d'officiers de chanter le déserteur de Boris Vian.
Alors, oui. Alors on va écouter le soldat mécontent.
Dès le matin au point du jour, on entend ces maudits tambours. Dès le matin au point du jour, on entend ces maudits tambours qui nous appellent à faire l'exercice. Et toi, pauvre soldat, c'est ton plus grand supplice. Les caporaux et les sergents nous font aligner sur deux rangs. Les caporaux et les sergents nous font aligner sur deux rangs. L'un dit recule et l'autre dit avance. Et toi pauvre soldat, faut prendre patience. Si l'argent du prêt est mangé, il ne faut pas s'en étonner. Si l'argent du prêt est mangé, il ne faut pas s'en étonner. Les caporaux s'en vont boire de la bière. Et toi pauvre soldat, va boire à la rivière. La patience nous la perdrons si jamais en guerre nous allons. La patience nous la perdrons si jamais en guerre nous allons. Ah si jamais nous allons en campagne, les grands coups de fusil verront les coups de canne. La campagne elle est arrivée, mon capitaine j'ai tué. La campagne elle est arrivée, mon capitaine j'ai tué. Mon lieutenant et mon sergent sans doute, soldats et caporaux, l'armée est en déroute. Qui a composé la chanson, c'est un tambour du bataillon. Qui a composé la chanson, c'est un tambour du bataillon. Un soir d'été, en battant la retraite, en pensant à Samy, que toujours il regrette.
C'était Marc Robin qui chantait ce traditionnel du 18e, qui reste un peu d'actualité, du moins il l'était encore pendant la guerre d'Algérie, ça m'étonnerait qu'il ne le soit plus du côté de la Tchétchénie ou d'ailleurs. La chanson donc s'intitule « Le soldat mécontent », à force de penser à autre chose. Voilà, nous avançons dans cette émission sur Radio Canu Bistantlac avec Hugo Iannucci que nous recevons ce soir pour parler de son expérience d'appelé dans la guerre d'Algérie, un peu à l'occasion de la date du 18 mars 1962, puisqu'on en fête les 40 ans anniversaire, mais c'est moins pour évoquer cet événement où il y aurait aussi beaucoup à dire que pour parler de son expérience de militaire, et comme presque tous les militaires, directement ou indirectement, il a été confronté à la torture, si ce n'est pour la pratiquer, c'était pour la côtoyer à travers les camps dans lesquels nul, finalement, quoi qu'on en dise, ne pouvait ignorer qu'il se pratiquait dans le bâtiment d'à côté, ou la nuit, ou ceci, ou cela, ou sur place même dans des expéditions, des actes, des exactions que la guerre ne nécessitait pas. Un centre de torture que vous avez côtoyé, donc, c'est celui de Bor.
C'est celui qui c'était un DOP, détachement opérationnel de protection, qui se trouvait sur une colline dans la banlieue d'Alger. Alors j'ai été muté au bout de 6 à 7 mois de présence en Algérie. Alors soit par erreur, soit peut-être pour m'éprouver. Pour voir si, ou pour me mouiller, disons, hein. Et j'ai passé une nuit terrible, parce que d'un côté, si j'acceptais de servir, d'effectuer ce que j'appelais une sale besogne, j'étais moralement détruit, mais si je refusais, je risquais de l'être physiquement, d'être victime de ce qu'on appelait pudiquement une corvée de bois. J'ai hésité toute la nuit, puis dès le lendemain, j'ai demandé à voir le responsable du poste et dire que j'avais accepté douloureusement de venir comme soldat, mais je refusais d'effectuer ce travail tout à fait particulier. Alors gros émoi, une Jeep est venue me chercher, c'est là que j'ai craint pour ma vie. Et puis en fait, on m'a conduit à l'état-major d'Alger où un officier m'a dit « je respecte vos scrupules de conscience » et m'a renvoyé dans les gorges de Palestro comme instituteur. Alors je me suis demandé... comment, pourquoi je m'en suis aussi bien tiré, j'ai pas eu la moindre sanction.
Comme vous le dites dans votre livre à l'époque, à gauche c'était le commandement, à droite c'était l'exécution, quoi. L'exécution, hein, dans la voiture.
Je crois trouver un élément de réponse dans le fait que pendant tout mon séjour, j'ai reçu des lettres d'universitaires ou d'enseignants lyonnais. Je pense notamment au doyen de la faculté des lettres, André Latreille, un professeur de lettres qui s'appelait Pouillou, un professeur de droit qui s'appelait Gravitz, Mademoiselle Gravitz, et d'autres, Jeannette Colombel, par exemple, professeur de philo à Lyon. Et il m'écrivait avec des enveloppes en tête de la faculté ou du lycée. Mon courrier était censuré, mais on savait donc bien, par ses lettres, avec ses en-têtes, que s'il m'arrivait quelque chose, eh bien, à Lyon, ça produirait une certaine agitation. Or, vous le savez, les mauvais coups se font toujours dans l'ombre. Quand vous mettez le projecteur sur quelqu'un qui est menacé, là, vous le protégez. Et d'ailleurs, c'est le principe qui a été adopté par l'association Amnesty International de, effectivement, de braquer le projecteur sur des personnes en danger. Et c'est un principe, finalement, qui est assez efficace. Donc, moi, je rends hommage à ces intellectuels qui m'ont protégé en simplement en m'écrivant. Et ça reste valable, si vous voulez, dans d'autres situations. Il faut toujours mettre en évidence, effectivement, le danger.
Alors, ces centres de torture, bien sûr, ils existaient. Bien sûr, on le sait depuis... Ceux qui veulent le savoir le savent depuis le début, mais il y a tout un consensus au niveau de la nation, au niveau de l'État, au niveau de l'armée. L'honneur de l'armée, on sait, Dreyfus et autres, on sait très bien qu'elle est capable de passer sur toutes les vérités élémentaires pour maintenir un pseudo-honneur. Dans le cas présent, donc aujourd'hui, 40 ans après, les révélations se généralisent, les gens ont besoin de soulager leur conscience.
Aussi. Le travail des historiens aussi. Moi, je voudrais citer deux livres extraordinaires. D'ailleurs, j'ai participé à un débat en décembre, ici à Lyon, avec deux historiennes. La première s'appelle Raphaël Branche. Elle a publié sa thèse, dont le titre est « La torture au sein de l'armée française pendant la guerre d'Algérie ». Et donc, à partir des archives de l'armée, elle confirme, alors si vous voulez, ma satisfaction, elle vient de là, ce que j'avais moi constaté partiellement, elle le confirme à l'échelle, effectivement, de toute l'Algérie, avec des documents vraiment incontestables. Et puis, il y a toutes les déclarations qui ont été faites, notamment par le général Massu, qui confirme donc ce système. Mais l'autre livre, tout aussi intéressant, concerne plus directement l'appareil judiciaire, puisque ce livre s'appelle « Drôle de justice ». C'est la thèse d'une autre historienne qui s'appelle Sylvie Thénault. Et elle montre l'abdication de la justice devant l'armée, pour des raisons effectivement qui peuvent se comprendre, patriotisme, etc. Il y a un conflit, donc, mais la justice n'a pas fait son travail. Ce qui fait que toutes les plaintes qui ont été déposés par les personnes torturées ou par les familles des victimes, dans l'ensemble, n'ont pas abouti. Il y a eu, je crois, qu'une plainte pour viol, et le parachutiste qui avait violé a été condamné à une peine tout à fait dérisoire, avec quelques mois d'emprisonnement avec sursis. Mais dans l'ensemble, la justice n'a pas fait son travail. Alors, moi, je le répète, je ne veux pas absoudre les auteurs d'attentats. Vous prenez le World Trade Center ou un attentat à Alger ou un attentat à Jérusalem. Je l'ai dit tout à l'heure, aucune cause ne justifie qu'on s'en prenne à des civils. Bien. Mais quand on arrête l'auteur d'un attentat, eh bien, rien ne justifie qu'il soit torturé et liquidé. Il y a eu des milliers de présumés responsables d'attentats ou simplement de suspects qui ont été liquidés. C'est l'enseigne, je voudrais rendre hommage à un homme, on parle du général de Bollardière, qui a refusé la torture dans son secteur, mais il y a un homme qui s'appelait Paul Tedjen, qui était secrétaire général de la préfecture d'Alger, qui s'est rendu compte qu'on lui faisait signer des assignations à résidence, et puis qu'on n'avait plus de nouvelles de ses assignés à résidence. Il a constaté que plus de 3000 pour Alger, personnes dont il avait signé l'assignation à résidence, avaient disparu. Et donc il a démissionné. De même, je voudrais rendre hommage au doyen de la faculté de droit d'Alger, qui s'appelait Périga, qui a dû quitter son poste parce qu'il avait protesté contre une exécution sommaire en pleine rue d'Alger. Donc voyez, d'une part, il y a eu des oppositions quand même à ces méthodes, mais d'autre part, on ne peut pas nier effectivement que ces méthodes ont été institutionnalisées avec l'appui du pouvoir politique. Et là, j'ai vécu douloureusement une période qui s'appelle le vote des pouvoirs spéciaux. Le 12 mars 1956, le gouvernement de gauche de M. Guy Mollet a fait adopter une loi avec l'appui de mon propre parti de l'époque, le Parti communiste, une loi confiant les pleins pouvoirs à l'exécutif pour rétablir l'ordre en Algérie et préserver l'intégrité du territoire. Et c'est en vertu de ces textes-là que des hommes comme Massu ont pu effectivement faire ce qu'ils voulaient et mettre en place et perfectionner ce système. Ce système qui a perduré lorsque le général de Gaulle a pris le pouvoir, alors que Malraux nous avait, dans des déclarations fracassantes, dit « la torture va maintenant disparaître ». Donc, responsabilité aussi du pouvoir politique. Et moi, vous voyez, j'étais l'un des rédacteurs avec d'autres étudiants d'une brochure qui est ici.
Avant votre départ,
avant notre départ, où nous dénoncions effectivement les pouvoirs spéciaux et les dangers qu'ils représentaient pour tous, pour les citoyens, pour la démocratie, etc. Eh bien, nous, simples étudiants, nous avons vu juste, et les hommes politiques de l'époque, eh bien, y compris ceux de gauche, ont, pour des raisons effectivement qu'il faudrait préciser, ont basculé et ont tout autorisé. Ça reste une tâche, effectivement, du côté des démocrates
et puis,
français.
Bon, au milieu de tous ces drames, surtout pour les Algériens, mais enfin, il y en avait aussi pour les Français et les familles françaises quand les cercueils revenaient de
là-bas. Quand les cercueils revenaient, oui, bien sûr.
Il y a le drame de tous les gens, les survivants de cette génération qui, à l'époque, vivaient entre deux mondes. Ils avaient quitté une France comme la nôtre, où les rapports entre les gens étaient normaux, avec des règles, avec... Et ils revenaient en permission dans cette France-là et ils étaient incapables de parler de ce qu'ils vivaient à 1000 kilomètres de là parce que ça n'avait aucun rapport.
Mais c'est-à-dire, si vous voulez, c'est pour ça que dans l'avant-propos là, de mon livre, j'ai dit on ne choisit pas son époque et moi j'aurais aimé avoir 20 ans pendant la résistance. La guerre d'Algérie n'était pas glorieuse dans notre esprit. Nous l'avons faite. Généralement, le contingent s'est bien comporté, si vous voulez. Mais ça a été fait dans un mal-être, sans connaître vraiment, sans adhérer aux finalités de la hiérarchie militaire ou du pouvoir politique. En plus, il y avait aussi, chez de nombreux appelés, un certain racisme à l'égard des Algériens, qu'on n'appelait jamais Algériens, mais Bougnoul, Bico, Raton, Melon, etc. Et donc, ce qui a été fait, ou ce qui a été vu par certains, ou subi par certains, fait que, lorsque nous sommes rentrés, eh bien, nous n'avons pas parlé et puis, on nous a très peu interrogé. Moi, j'ai été frappé, y compris dans ma propre famille. On m'a très peu interrogé sur ce que j'avais vécu.
On voulait pas savoir.
Peut-être le désir, on voulait pas savoir.
C'était ingérable.
Tenez la page, peut-être la lassitude.
À une échelle moins grande, je trouve qu'il y a une analogie entre ça et les retours des camps de concentration. Où ce qui s'était passé était tellement horrible que ce n'était pas racontable.
Alors, c'est pas sur la même échelle. Mais, disons, les conséquences morales sur certains jeunes sont restées très graves parce qu'ils sont restés enfermés avec leurs problèmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut libérer, maintenant, ceux qui ont perdu leur jeunesse mais qui restent avec leurs souvenirs. Et le meilleur moyen effectivement c'est de parler, c'est d'évoquer ceci et non pas de tourner la page mais de passer à un autre stade.
Vous vouliez dénoncer un petit peu l'analogie qu'avait cherché à utiliser Vergès dans sa défense de Barbie.
Oui, mais alors ça effectivement ça a été un moment important de ce procès. Vergès qui était dans sa jeunesse un militant anticolonialiste, a fait une comparaison entre les exactions de l'armée française et les crimes nazis. Et j'ai été un de ceux qui se sont opposés à cet amalgame. Bien sûr, au niveau de l'individu, que vous soyez torturé dans les caves de l'avenue Berthelot, là où se siégeait la Gestapo, ou que vous soyez torturé dans les caves de la Villa Susini à Alger, c'est la même chose au niveau de l'individu. Mais au niveau d'un pays, au niveau de la finalité, c'est pas comparable. Le régime nazi était fondé sur une idéologie qui impliquait la prétendue supériorité d'une race sur d'autres et l'élimination des races dites inférieures, qu'elles soient tziganes, juifs ou de certains peuples slaves ou des opposants politiques. Et on a mis au service de cette idéologie toute la puissance de l'État, police, armée, y compris industrielle, puisque on a utilisé certains gaz. Ça ne peut pas être comparé à ce que fait l'armée française honteusement, en contradiction avec nos principes, avec une opposition d'une partie de la société civile. Pensez à des journaux comme L'Humanité, La Croix, le France Observateur, L'Express. Pensez à au combat justement de certains avocats, Vergès notamment, ou Gisèle Halimi. Pensez à protestation du Parti communiste, de la CGT. Pensez à l'attitude de l'UNEF, étudiante. Donc, dans la société civile française, il y a eu un mouvement contre la guerre et contre la torture, ce qu'on n'a pas vu au niveau du régime nazi. Et nous nous sommes aidés. J'avais écrit à Michel Rocard, qui avait fait une enquête sur les regroupements de population en Algérie. On vidait tous les villages montagnards en Kabylie, par exemple, pour regrouper la population près du poste, pour mieux la contrôler. Et Rocard, qui était à l'époque élève à l'ENA, avait fait un rapport à la demande, de Monsieur de Louvrier. Et lui avait constaté effectivement que ces regroupements avaient provoqué la mort de milliers d'enfants ou de personnes âgées, notamment par malnutrition, mauvaises conditions d'hygiène, etc. Mais il disait... Les déplacements de population en Algérie, je le cite, ont eu pour conséquence la mort de victimes nombreuses, mais ce n'était aucunement leur but. Ils ne sauraient en aucune mesure être comparés à la solution finale, à l'anéantissement des communautés juives européennes. Donc, vous voyez, la finalité était absolument, absolument différente. Donc, je crois qu'il fallait effectivement rétablir un peu cette situation. Pour l'honneur de la France et pour l'honneur de l'armée, il y a eu une opposition à l'intérieur de la société civile, et il y a eu une opposition à l'intérieur même de l'armée, que ce soit au niveau du général Bollardière ou du deuxième classe que j'étais. Ça, je crois que c'est nous qui avons, je le répète, sauvé l'honneur de l'armée française. Ce ne sont pas ceux qui veulent nier des évidences.
On arrive un peu au terme de cette émission. Votre livre, on le trouve où, pour les auditeurs? Il est édité chez Aléa.
Oui, chez Aléa, 15 Quai Lassagne à Lyon. Mais depuis peu, je crois qu'on le trouve maintenant dans les librairies. Jusqu'à présent, il ne bénéficiait pas d'une très grande diffusion parce que les éditions Aléa ne sont pas un éditeur très riche et vous ne pouvez pas s'abonner à un réseau de distribution, mais je crois que maintenant, ils ont passé à ce stade-là.
On ne peut que s'en féliciter. Alors, beaucoup d'autres questions sont abordées. Rien ne vous a été épargné. Vous avez même vécu pendant cette période forcément psychologiquement difficile les affres d'une relation amoureuse perturbée, on va dire.
Oui.
Hein, ce qui ne
alors,
facilite
c'est la raison
pas
pour
le
laquelle
moral.
J'ai hésité avant de publier ce livre parce qu'il y avait tout un aspect personnel, intime.
Et en même temps, il reflète bien.
Mais il reflétait bien aussi les difficultés
Puis ça ne vous empêchait pas, jeune instituteur, d'apprendre des poèmes d'Aragon à vos élèves?
Oui, d'Aragon. Et aussi, je leur apprenais leur propre histoire parce que je m'étais bien renseigné justement sur l'histoire de l'Algérie depuis des siècles. Et pour eux, c'était important.
Bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de votre participation. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être sur d'autres sujets ou sur celui-là pour l'approfondir. On va terminer en écoutant Pia Colombo chantant Maurice Fanon, une chanson qui s'intitule La Question.
Ah, merci.
Bonsoir.
Dans vos régimes à galons, combien sont-ils, je vous demande, messieurs, dans vos exils, dans vos prisons, leur reste-t-il un peu d'espoir au cœur de résister à la question? Combien faut-il pour les tourmentes, messieurs, pour qu'ils tombent sous vos talons? Combien faut-il qu'ils se lamentent, messieurs, pour ne plus comprendre leur nom? Leur reste-t-il une mémoire des leurs, un souvenir ou un prénom? Combien faut-il pour les tortures, messieurs, pour qu'ils soient sourds à vos injures? Combien faut-il qu'ils endurent, messieurs, pour n'être plus qu'une blessure? vivre avant l'exécution. Combien faut-il qu'on les tourmente, messieurs, ces ouvriers de l'espérance? Combien faut-il pour leur faire rendre, messieurs, le cœur, la tête et la laitance? Combien faut-il que ça se vende, les cieux, pour que l'Église taise leur nom? Combien sont-ils à ne plus tendre, messieurs, qu'un regard vide à vos questions? Combien sont-ils à vous entendre, messieurs, à l'heure du dernier frisson? Leur reste-t-il un peu de viande aux yeux, un peu de cils et de raison? Combien sont-ils, je me demande, messieurs, dans vos régimes à galons? Combien sont-ils, je vous demande, messieurs, moi je vous pose la question.
Thank you.